Toujours mettre sa table, mettre la table après Shabbat. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'il rajoute le prime? Le prime, Gadim, il rajoute, ainsi que le Machatzit Hashekel. Bon, ça vous dit rien, c'est des décisionnaires qui sont dans le, sur les coins, les bords du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est des grands décisionnaires. Ils disent, Shegam Nashim Chayavot, que même les femmes sont tenues de faire la Seudat Melave Malka. D'accord? Pour quelle raison? Comme on a vu la semaine dernière sur l'Avdala. Est-ce que l'Avdala c'est une opération du Shabbat ou une opération de Chol? Vous vous rappelez qu'on a vu ça sur le Kiddush? Est-ce que le Kiddush, l'Avdala, c'est une opération de Shabbat ou une opération de Chol? Si vous dites c'est une opération du Chol, alors c'est une mitzvah qui est tenue par le Kili Otan, donc la femme n'est pas obligée de la faire. Mais si vous dites que l'Avdala c'est une mitzvah liée au Shabbat, c'est un kiddush pour sortir du Shabbat, comme il y a un col, le kiddush pour entrer avec son tenue, le kiddush pour sortir avec son tenue. Vous avez compris? Alors si vous dites une opération de Chol, une opération qui va me permettre de faire des travaux de Chol, mais qui n'a plus rien à voir avec le Shabbat, je veux dire, la femme n'est pas tenue. Vous avez compris? Et c'est pour ça que j'ai là à côté, la synagogue d'à côté qui n'est ouverte que le Shabbat. Alors, ils vous voyez tous les hommes, ils font l'Avdallah, puis vous guettez s'il y a des femmes dans le coin, il n'y a pas de femmes. Alors, les Bachourim, vous dites, bon, ok, ils ont fait l'Avdallah, et les hommes mariés, ils font l'Avdallah, et comment ils font, ils ne commencent pas à la maison. Non, ils vous disent, non, les femmes, elles n'ont pas besoin d'écouter l'Avdallah. Et ça, c'est vraiment, tendancieux, parce qu'en vérité, le Rambam, il dit que c'est une opération du Shabbat, l'Avdallah. Donc, la femme est tenue d'Avdallah comme l'homme. Même problème pour le quatrième repas. La Seudat Melave Malka, ça s'appelle le quatrième repas du Shabbat. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle pas un repas de Chol. Ça s'appelle le quatrième repas du Shabbat. Donc si vous l'appelez comme ça, donc à ce moment-là, c'est ce que vous disent le Prime Gadim et le Martzit Hashekel, que les femmes sont donc tenues de faire le repas du Melave Malka. Mais Yesh, Améviim, il y en a qui disent, pas seulement c'est bien, ils vous disent que c'est une Ségoula. C'est quoi une Ségoula? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a des propriétés miraculeuses, ce qu'on appelle une Ségoula. Comme c'est connu au nom du grand Rabbi Elimelech de Lichensk. Vous avez connu le grand Rabbi Elimelech de Lichensk, le frère de Rabbi Zouché d'Anipoli. Le grand Rabbi Elimelech de Lichensk disait que la Ségoula de Melave Malka, c'est pour provoquer un accouchement sans douleur. La femme qui fait attention à faire Ségoula de Melave Malka, elle bénéficiera d'un accouchement sans douleur. Donc c'est pas rien. D'accord? Et c'est écrit, bon ça c'est chez les chassidiques maintenant, chez les litaïs, dans le fameux livre du Gaon de Vilna, il dit que il faisait très attention à manger Seudat Melave Malka, même quand il était malade. Donc on voit bien que c'est, d'après toutes les opinions, qu'il ne faut pas se dédaigner la Seudat Melave Malka. Et le chidouche, il est de parce qu'on n'a pas faim. Celui qui a faim, c'est évident qu'il va manger. Alors, ok, on a compris, il va manger. Mais là, on parle de quelqu'un qui n'a pas très faim, qui aurait même été se coucher sans manger. Ben, il faut quand même qu'il se force. Et qu'est-ce qu'ils racontaient les tzadikim d'avant? Ils disaient qu'il fallait manger de l'ail. De l'ail. D'accord? Vous savez pourquoi de l'ail? Parce que ça veut dire, comment vous dites, qu'est-ce que ça veut dire le mot choum en hébreu? Choum. Rien. Choum, ça veut dire quelque chose. Choum, ça veut dire une évaluation. Shamaï, choum. Donc choum, ça veut dire quelque chose. Donc c'est une ségoula pour être riche, manger de l'ail. Parce que vous êtes quelque chose. Vous attrapez quelque chose. C'est pour ça que certaines communautés ne mangeaient pas d'ail à Pessah, parce qu'à Pessah, il ne faut être rien. Il faut être humble, comme la Matzah. Alors, c'est de là le minhag, d'après les secrets, de ne pas manger de l'ail. C'est pas comme les gens disent, parce qu'on faisait sécher l'ail sur les fours en farine, c'est parce qu'ils disaient que c'est contradictoire avec le principe de Pessah. Le choum va à l'encontre de la Matzah. D'ailleurs, on voit bien que le chou, c'est l'un des seuls aliments qui reste très fort, d'accord ? Quand vous mangez de l'ail. Plusieurs heures après, vous avez encore le goût de l'ail. Donc c'est chou, c'est quelque chose, l'ail. C'est pas un truc furtif comme un verre de lait ou un verre d'eau. Donc il y en a qui disent, c'est bien de manger de l'ail. Motzé Shabbat.
C'est pour ça qu'il donnait
pas tout seul, évidemment.
C'est pour ça qu'il donnait de l'ail, les tzadikim, quand on allait les voir.
Voilà. Vous avez compris? Vechem mekubal b'shem abal shem tov. Et voilà, au nom du Baal Shem Tov, il dit que c'est bien de manger de l'ail. Donc, vous mangez du poisson et vous mettez un peu d'ail dedans. Ou vous mangez un peu d'harissa. Comme il y a de l'ail dedans, vous êtes quitte. Mais si vous n'aimez pas le bassari, vous mangez du halavi, vous mangez du boursin, du fromage à l'ail. Comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, le Mishnah Brura, lui, il dit carrément que quand quelqu'un, il est très, très, très plein, enfin, avec le repas du Shabbat, ceux qui ont fait une souda chlichite, copieuse, ils n'en peuvent plus, alors il dit qu'on peut être quitte avec des gâteaux, de simples gâteaux, enfin, ou même des fruits. Et il y en a qui vont plus loin encore. Il y en a qui vont plus loin encore, qui vous disent, ouais, c'est au nom du Rav Yahabetz, si ça vous dit quelque chose. Le Yahabetz, il dit qu'on peut se rendre quitte, même avec une boisson chaude, et ça suffit. Quelqu'un qui boit une boisson chaude, un thé ou un café chaud, ça s'appelle Melave Malka, si vous êtes
Saturé.
Mais la boisson chaude, il faut de toute façon la boire, même si vous n'êtes pas saturé, il faut boire une boisson chaude Motsaï Shabbat. Pourquoi? Allez-y. Rachel Chaltiel. Elle s'appelle Rachel aussi, non? Alors, je ne suis pas... Pourquoi boit-on une boisson chaude Motsaï Shabbat? Non, mais pas si loin, parce qu'il y a écrit, dans les psaumes, « Umechabesh le atzvotam », que Dieu, il pense les plaies, « Umechabesh le chovesh », c'est un infirmier, qui pense les plaies, les atzvotam, des gens mélancoliques. Alors on dit que quand le Shabbat s'en va, si on a fait Shabbat comme il faut, bien évidemment, on est très triste, très mélancolique. On a alors le spleen du samedi soir. Que même la cigarette et la discothèque ne pourront pas enlever. Donc, on prend une boisson chaude et si vous prenez les initiales de Umer Habesh, qui vous pensez, c'est les initiales de Maïm Hamim Bemotsae Shabbat. De l'eau chaude samedi soir.
Et en particulier,
ne faites pas de publicité. Non, même un verre d'eau chaude, ce qui allait être une
question.
On a l'angoisse parce que la neshama supplémentaire s'en va. Ah, ça doit pas être. Vous devriez être de bonne humeur. C'est que dès que les étoiles apparaissent, et alors on dit que la mélame est mal cas, enlève cette tristesse, et particulièrement la boisson chaude. Et maintenant, une autre segoula qui intéressera tout le monde, c'est que la Melave Malka, c'est une segoula pour la richesse. Parce que si vous mangez après Shabbat, alors, bon Dieu il dit, donc cette personne-là, elle a besoin de beaucoup, puisque même après Shabbat, il faut qu'elle mange. Donc c'est une segoula pour la parnassa de manger après Shabbat. Donc même si vous n'avez pas faim, Je suis sûr que cette nouvelle vous incitera à vous ouvrir l'appétit. Parce que quand même, être riche, c'est quand même intéressant, ne serait-ce que pour des raisons financières. Voilà. Pas de questions? Non, parce que les gens croient qu'il y a des mitzvot qui sont spécifiques aux hommes, mais des fois il y a des choses qui sont pour tout le monde. Ouais, c'est de mieux de faire ça que du vrai pain, quoi. Mais elle doit être mitkaven. Le Rabbi Elimelech, il dit qu'il faut le dire, le Shem, mais la même Malka. Le Shem, mais la Malka, il garantit qu'il y aura un accouchement facile. Ce qui n'est pas une bracha négligeable.
Le problème qu'on conseille également d'allumer un
nerf. Nachron. Moi, j'allume toujours un nerf pour David Ameler et pour Rabbi. Non, pour Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il y a un ami, il faut en parler. Il ne faut pas allumer une bougie. Il faut en parler de lui. Il faut annoncer son nom. Et raconter une histoire de Sipurei Tzadikim.
À qui faut prononcer son nom?
Et Eliyahu Hanavi, il faut dire Eliyahu Hanavi. Ou le chanter, ou... Voilà. Allez, pas de questions? Non, hein, pas vrai. Le minage le plus dur, c'est de manger du poisson avec. Il y a des gens qu'il faut manger du poisson. Ouais. De brûler les vacas, parce que la brancha du poisson, c'est la brancha de l'abondance. Donc, si vous ne supportez pas, vous achetez une boîte d'anchois et vous en mangez un, et c'est fini, vous êtes tranquille. Ou du thon. Ok, pas de questions? Alors, c'est de quoi voulez-vous qu'on parle? La paracha ou de Pessah Sheni? J'interroge nos auditeurs de l'autre côté de la mer. Pessah Sheni ou la paracha? Bon, alors, on parlera de la paracha. Qu'il y avait une unanimité. Ouais. Alors, la paracha est morte. C'est une paracha extrêmement variée en mitzvot. Elle commence par les mitzvot qui concernent les mariages. Enfin, les occasions où le Kohen a le droit de se rendre impur, et les femmes qu'il a le droit d'épouser, hein? Et la même loi concerne le Kohen Gadol, qui nous raconte quel genre de femme le Kohen Gadol a le droit d'épouser. Hein? Et parallèlement, par rapport à quels parents le Kohen et le Kohen Gadol ont le droit de se rendre impur, c'est-à-dire d'aller au cimetière, hein? D'accompagner leur disparu. Une fois que la paracha finit, elle raconte des choses complètement coq à l'âne, comme on dit. Elle parle des défauts que les Kohanim ne doivent pas avoir. Le début, c'est une situation dans laquelle le Kohen Gadol, où le Kohen ne doit pas se trouver, impureté ou pas impureté. Et la deuxième paracha parle de l'état du corps du Kohen lui-même. Hein? Donc un Kohen qui aurait un défaut physique, qui évidemment, dont la Torah donne la nomenclature ici, ne peut pas être apte à recevoir le service. Donc il peut, quand il a un défaut, on le nomme, par exemple, au tri du bois, par exemple. Pour trier le bois, pour que le bois ne soit pas véreux. Donc il ne rentre pas dans l'étage supérieur du Beth Amikdash, il reste dans les sous-sols, là où il y avait les différents bureaux, où on préparait tout ce qui servait au service d'en haut. C'était les coulisses du Beth Amikdash. D'accord? Et après, qu'est-ce que la Torah nous raconte? Elle nous raconte que, de la même façon que le Kohen ne doit pas avoir de défaut physique, Elle nous dit que le sacrifice lui-même ne doit pas avoir de défaut physique. Et on retrouve un parallèle amusant entre les défauts physiques du Kohen avec les défauts physiques de l'animal. Hein. Les espèces de rayures dans l'œil, une jambe plus haute que l'autre, ou alors un bras coupé, enfin des choses qui sont... Faut que ce soit un moum très visible. Hein.
Le Kohen Gadol, il devait être parfait.
Le Kohen, pas le Kohen Gadol, le Kohen Gadol, c'est sûr.
Il ne devait pas avoir
des défauts physiques spécifiques, c'est des défauts graves, pas un grain de beauté sur la jambe gauche. On parle d'un truc qui était très marqué. Un défaut, par exemple, un nez coupé, ou alors une oreille coupée, ou alors un strabisme convergent
très prononcé,
etc., etc. Bon, tout ça, c'est expliqué dans les différentes gmarotes, parce que là, c'est... La Torah vous donne des choses très en vrac. Après, évidemment, il faut jouer dans le détail jusqu'à quel point ça s'appelle un défaut ou ça s'appelle pas un défaut. Pas, et la même chose, identique pour les animaux. D'accord? Donc, c'est la troisième mitzvah. La quatrième mitzvah. Donc, c'est très varié, cette paracha. La quatrième mitzvah vous parle de la consommation de la trouma, de ce qu'on offrait au Kohen, qui avait le droit d'en manger. Bon, vous direz ça dans vos chumashim, et après, la paracha détaille toutes les fêtes. C'est d'ailleurs dans ce paracha-là qu'on lit, chaque fois qu'il y a une fête, on lit dans ce paracha-là. On commence à raconter Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., Rosh Hashanah. On vous dit tous les sacrifices qu'on offrait pendant les fêtes. Donc c'est très long. Après, on vous parle des fameux pains de proposition. Les 12 pains qui étaient offerts au Beth Amikdash. Et enfin, la paracha finit avec un événement extrêmement cheveux dans la soupe, qui n'a rien à voir apparemment. C'est l'événement de celui qui a transgressé Shabbat dans le désert. Celui qui a pas transgressé Shabbat, qui a blasphémé dans le désert. Hein? Qui était le fameux blasphémateur dans le désert? C'était le fils de Shlomit Bat Divri. Et on vous raconte que cet homme-là a blasphémé, il a perdu son jugement avec Moshe Rabbeinu, il a perdu le jugement, et quand il est sorti du jugement, il a blasphémé. Et donc, on voit que, pour la première fois, un événement terrible, on lapide le monsieur qui a blasphémé. Et ce monsieur s'appelait... Comment il s'appelait? C'était le fils de Shlomit Bat Divrit. Qu'est-ce que ça veut dire, Shlomit Bat Divrit? On l'appelait Shlomit... Parce qu'elle disait bonjour à tout le monde. Tous les gens, elle leur disait bonjour. Donc vous allez poser une question, mais évidemment, elle disait bonjour à tout le monde en Égypte. Comme elle disait bonjour à tout le monde, alors un des gardiens égyptiens, un des surveillants égyptiens, ils ont commencé à faire la causette entre eux. Et donc, non, pas un mariage mixte, c'est un adultère, quoi. Il y a eu un adultère entre elle et cet officier égyptien, et de cette union est né ce garçon qui a blasphémé. Le blasphémateur. La Torah ne nous le dit pas. Enfin, je n'en ai pas eu connaissance.
Ça
s'appelle
pas une
chasse sauta,
c'est-à-dire une femme qui a...
Non, c'est pas sauta, mamache, elle a... elle, c'est à cause de, d'elle que Moshe a tué l'Égyptien. C'est à cause... Moshe a tué le père de cet enfant. Mais là, il voulait empêcher le pauvre juif d'être trompé par cet Égyptien. D'accord. Donc maintenant, vous allez poser une question intelligente, comme d'habitude. Quel rapport y a-t-il entre toutes ces parchiotes? Quel rapport y a-t-il entre la Kdusha de Kohanim, avec laquelle on commence, et avec cette histoire de Shkomit Bat Divri avec laquelle on finit, pour dire qu'on l'a lapidé parce qu'il a maudit, il a blasphémé Dieu? Quel rapport entre la sainteté des Kohanim et le blasphème en fin de paracha? C'est un fourre-tout, cette paracha. On a l'impression que ça n'a aucun rapport. Est-ce que le jeûne n'était pas trop dur? Ouais, allez vous casser le jeûne. De là, on voit que c'est jamais de refus, quoi, petit. D'ailleurs, nous informons nos auditeurs que si vous venez à Jérusalem au Shiur en direct, vous n'aurez pas seulement le Shiur, vous aurez aussi une collation offerte par la Yeshiva en Gabriel. Faite de main gâteau et main de boisson. Donc, on va tout de suite retrouver le lien entre les deux, entre le début de la paracha et la fin de la paracha. La paracha s'appelle Emor. D'accord? Emor est la Kohanim. Parle au Kohanim. Et dis-leur, d'accord, qu'il ne faut pas se rendre impur, etc. Et la fin de la paracha, donc le début vous parle d'un discours. Emor, parle au Kohanim. Il n'y a pas écrit ordonne au Kohanim. On a vu une paracha plus haute, plus loin, qui s'appelait plus haute, plus avant, qui s'appelait Tzav. Ordonne au Kohanim. La Pitam, on vous dit parle au Kohanim. D'accord? Emor est la Kohanim. Donc toute la paracha est relié avec son nom. Son nom, elle s'appelle Emor. Elle s'appelle Baal, cette paracha-là. Dis. Raconte. D'accord? Donc, cette paracha veut nous enseigner l'importance de la parole. Les différents aspects de la parole. Et pour bien vous montrer l'importance de la parole, elle a fini par une histoire qui était due à la parole. C'est parce que cette femme-là disait bonjour à tout le monde que son fils en est arrivé à blasphémer dans le désert et qu'il en est mort. D'accord? Donc le lien, il est lié avec... Vous avez tout de suite fait le lien entre le titre et ce qui s'y passe. On vient vous enseigner l'importance des mots. Et mort est la Kohanim, et après on termine avec cette histoire de Divri bat Shlomit. Shlomit bat Divri. Shlomit, c'est-à-dire bonjour, fille de Dibrit, fille de la parleuse. La fille de la parleuse. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient vous faire ici dans cette paracha? On vient vous montrer que, comme dit le Rambam, comment s'appelle l'être humain dans la tradition juive? Il s'appelle le Medaber, il s'appelle le parlant. Il s'appelle le parlant. Donc, si l'homme a été doté de cette capacité de parler, qui est différente de la capacité des autres existants qui sont dotés de la capacité de s'exprimer. Tous les êtres vivants s'expriment. Mais il n'y a que l'homme qui parle. Ma perruche. Vous connaissez cette expérience, quand vous mettez du Mozart à une plante, elle pousse bien, elle va bien pousser. Quand vous lui mettez de la musique pop, elle va se flétrir plus vite. Donc elle exprime son contentement ou sa peine en fonction de la musique que vous lui mettez. C'est pour ça que chez les dentistes, il y a toujours des plantes qui tiennent bien parce qu'ils mettent de la musique classique en fond. D'accord ? Alors que dans les salles de mariage, toutes les plantes ne tiennent pas longtemps parce que tout le bruit que ça fait, les pauvres, elles sont malades de décibels qu'on leur injecte. Donc on voit que c'est maintenant prouvé que les plantes s'expriment. C'est pas shoot que les animaux s'expriment. Vous voyez qu'un chien est joyeux ou triste ou le Arizal nous dévoile que les pierres aussi s'expriment. Que les pierres s'expriment, elles absorbent et elles recrachent, elles s'énervent, elles se... Donc tous les êtres vivants, tout ce qui est metziout, tout ce qui est existant, s'exprime. Les oiseaux aussi s'expriment, ils chantent, etc. Mais il n'y a qu'un seul être vivant qui ne fait pas que s'exprimer, il parle. C'est nous. Les hommes parlent, ils ne font pas seulement que s'exprimer. Quel est le chidouche de parler par rapport à s'exprimer? C'est que les autres créatures, elles s'expriment pour exprimer un sentiment qui les dérange ou qu'elles veulent transmettre. La plante veut vous dire, ça me dérange le bruit que tu fais, alors arrête. Ou le chien, il veut vous montrer qu'il a faim ou qu'il a soif. Donc l'expression chez tous les êtres, ça n'est que un message qu'on transmet pour raconter comment on est. Alors que chez l'homme, la parole, c'est pas du tout fait pour s'exprimer. C'est pas fait pour raconter qu'est-ce qu'on ressent. La parole de l'homme. La parole de l'homme, c'est fait pour créer. Puisque nous sommes à l'image.